Bien, alors pour laisser le temps à Stéphane d'arriver, on va peut-être démarrer. Donc Mathieu Triclot, que je vais représenter, il n'a pas changé depuis 5 minutes, il est toujours épistémologue. On peut dire même, d'une certaine manière, concepteur d'une esthétique du jeu vidéo dans son ouvrage Philosophie et jeux vidéo. Il est toujours enseignant. Et son ouvrage, je pense, sera au cœur d'une grande partie de notre problématique. Alors, avec notre invité philosophe, on a deux grands noms de la littérature de science-fiction contemporaine. Alors, Alain Damasio, qu'on présente plus, et pourtant si, alors, moi, ce que j'aimerais, parce que bon, je pense que ici, beaucoup de gens, tout le monde le connaît, mais j'aimerais insister aussi sur, outre ses qualités formidables de romancier, de créateur, c'est aussi un théoricien du genre, un essayiste, et surtout quelqu'un qui multiplie les voies narratives, puisqu'il est à la fois, on le sait, romancier, mais participe à des expériences transmédia qui sont très intéressantes, comme cet enregistrement de La Rage du Sage dont il nous parlera. Donc c'est ça aussi qui sera intéressant de voir sur une problématique comme philosophie et jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est que créer à travers différents modes de narration. Et donc Stéphane Beauverger qui tarde, il est peut-être dans un autre réel, très probablement. En tout cas, il les connaît, il est lui concepteur, en plus d'être ce grand romancier qu'on connaît, concepteur de jeux vidéo depuis maintenant très longtemps. Et il est aussi, avec par exemple Le Déchronologue, l'auteur d'un formidable roman sur la narration déconstruite et sur les durées inversées. Donc, je voudrais démarrer tout simplement par une question très simple, c'est philosophie et jeux vidéo. On aurait pu s'en sortir simplement et de façon moderne avec théorie du jeu vidéo ou pensée, sagesse du jeu vidéo. Pourquoi philosophie ?
Ça m'est adressé, ça. Oui. Ayant écrit un bouquin qui s'appelle Philosophie voilà. Des jeux vidéo, je me sens visé par
dans
cette
la
question.
Facilité, ouais.
C'est vrai qu'on est a priori dans la distance maximale, parce que d'un côté, on a une pratique culturelle, populaire, les jeux vidéo, qui est liée à une industrie culturelle, puis de l'autre côté, on a la reine des sciences, quand même, la philosophie. Donc on est aux deux extrémités du spectre des cultures légitimes et illégitimes, même si c'est quelque chose à questionner. Philosophie des jeux vidéo, il y aurait plusieurs manières de prendre l'intitulé. Et une manière évidente, peut-être qui peut être attendue avec un titre pareil, c'est de se dire où sont les éléments philosophiques dans les jeux vidéo. Après tout, il y a une philosophie des séries télé, une philosophie du rock, une philosophie du rugby, une philosophie de quoi Donc il y a des philosophies d'à peu près tout. Et la logique à ce moment-là, c'est d'aller chercher est-ce qu'on retrouve des philosophèmes, des éléments de philosophie dans ces objets culturels, dans ces objets culturels-là. Dans philosophie des jeux vidéo, c'était un autre problème qui m'animait et qui justifie ce titre de philosophie, c'est d'essayer de comprendre les expériences du jeu vidéo. C'est-à-dire que les jeux vidéo, c'est une expérience que j'appelle instrumentée, c'est-à-dire qu'on utilise un dispositif technique extraordinaire, un ordinateur couplé à un écran, la plupart du temps c'est ça, on utilise ce dispositif technique pour se mettre dans des états pas possibles, des états louches, des états seconds, dans lesquels on est dans des petites transes ou des petites hallucinations, enfin quelque chose comme ça. Donc c'est l'analyse de ces formes d'expérience qui est au cœur là, de ce travail philosophique, parce que quand on veut analyser ça, quand on va analyser ce que ça fait, il faut analyser les affects, les émotions, tu parlais d'esthétique tout à l'heure, on travaille sur du sujet, on travaille sur du moi, on travaille sur la manière dont ce sujet se transforme dans l'expérience. Donc la forme de savoir qu'on peut produire des actes de jeu, du play, du fait de jouer, elle est forcément incertaine. C'est-à-dire que ça pourrait pas être science, je crois, des jeux vidéo. C'est-à-dire essayer de comprendre ce qui se passe pour ceux qui jouent quand ils jouent. On peut faire des objectivations partielles, on peut utiliser comme ça des instruments théoriques pour essayer d'éclairer un peu ce qui se passe du côté du sujet. Mais c'est un savoir spéculatif, un savoir inachevé, et en ce sens-là, pour moi, ça relève d'un travail philosophique. Bonsoir.
Bonsoir. Le Boulet.
Bienvenue.
Alors Alain, je vais pas te poser la même question, même si tu y répondras probablement, mais ce qui vient d'être dit, tu le mets en pratique, tu synthétises, on dirait une espèce d'arbre de Porphyre au ramage. Il y a Deleuze, il y a les jeux, la pratique des jeux, il y a la Horde du Contrevent qui devient un support d'image. Alors, c'est pas un jeu, mais on n'est pas finalement pas si loin. Et donc il y aura un jeu. Comment toi, en tant qu'auteur, en tant que créateur, tu peux concilier dans une pratique philosophie et jeux vidéo?
Oula.
J'avais prévenu de ne pas me mettre en modérateur.
J'étais tranquillement à la table de dédicace, c'était bien. Et là, voilà la question qui non, frappe. Mais
tout simplement, concrètement, c'est vrai, tu manies, tu utilises, tu fais quelque chose de tout ça.
Moi, je dirais que j'ai essayé de sur le jeu vidéo qu'on a fait, la Remember Me, quand je suis arrivé sur ce jeu, j'avais une ambition et une énorme naïveté, parce que je ne suis pas du tout un gamer, je ne suis pas du tout un joueur, et je connaissais à la fois très mal l'industrie et même très mal l'expérience de jeu. Je ne joue pas énormément. Je joue à FIFA, pour vous dire, voilà, je joue à FIFA et à Soul Calibur, vous voyez le niveau, quoi. Donc, c'est pas brillant, quoi. C'est culture jeu vidéo, c'est pas très brillant. Et quand je suis arrivé, j'ai procédé comme je faisais sur mes livres et sur les scénarios, c'est-à-dire que je suis parti effectivement de concept. C'est-à-dire que j'essaie de trouver un concept de départ qui me semble suffisamment, moi j'appelle ça totipotent, quoi. C'est-à-dire que c'est comme une cellule souche qui a la capacité de se déformer dans toutes les directions et de trouver des sphères d'extension un peu partout, quoi. Et là, je voulais travailler, mon idée c'était de dire, je voudrais travailler sur une expérience où les gens sentent ce que ça veut dire de subir une technologie intrusive. Et une technologie intrusive qui pourtant les empuissante, qui pourtant leur permet de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Et là, l'idée c'était de dire, on va numériser, on va digitaliser la mémoire humaine, ce qui fait que chaque souvenir peut être stocké, archivé, et s'il peut être stocké, archivé, il peut aussi être lu par d'autres personnes dans leur système nerveux central. Et à partir de ce paradigme-là, de ce concept-là, technologique, s'ouvrait tout un champ énorme, parce qu'on repensait complètement la façon dont la société allait se structurer à partir de cette numérisation de la mémoire, et comment les gens allaient du coup coopérer entre eux, partager entre eux. Il y avait évidemment des sortes de Facebook mémoriels. On ne va plus discuter dans un bar, mais on partage ensemble des souvenirs extrêmes ou délirants. La plus grosse société de ce monde-là est une banque des mémoires vivantes qui va orpailler, récupérer. Les gens, chaque jour, vont déposer à la banque un certain nombre de souvenirs précieux ou les souvenirs dont ils veulent se débarrasser. Et ensuite, évidemment, la banque qui, comme toute multinationale dans le cyberpunk, est une odieuse et crapuleuse institution, fait du data mining sur ses souvenirs et comme Facebook, détermine les tendances marketing futures, etc. Donc, il y avait tout un champ comme ça, sociologique, que ça permettait de prospecter. Et puis aussi, il y avait l'idée, évidemment, de s'interroger sur l'identité. Comment l'identité peut être manipulée, remixée, trafiquée à partir du moment où on peut interagir sur des segments comme ça de mémoire digitalisée. Et qu'est-ce que devient, évidemment, l'être humain à partir du moment où on peut soit effacer, soit ajouter des souvenirs, soit au contraire les remixer. Donc, c'était ça l'idée de départ, avec en plus, dans l'ambition originelle, de travailler sur la manipulation de la mémoire collective. Qu'est-ce qui se passerait si on instillait dans la tête des gens le même souvenir au même moment, par exemple, une horde affreuse de Rome à tuer des bébés dans une crèche, quoi. Voilà. Et puis on instille ce souvenir à tout le monde en même temps, et là vous avez le Front National à 87%, et voilà. Donc il y avait tout un délire là-dessus. Et quand j'ai démarré là-dessus, bon voilà, j'ai passé un an et demi tout seul, et j'ai fait une bible comme ça autour de... Avant de faire appel vite à un vrai professionnel, c'est-à-dire Stéphane Beauverger, qui est venu faire un vrai scénario de jeu vidéo à partir des délires.
Mais et qui lui a dit, mon pauvre garçon, si tu penses que plus de 5% de tes idées passeront dans un jeu, t'as craqué, quoi. Donc, voilà. Mais il ne m'a pas cru.
Ouais, je ne l'ai pas cru au début. Puis à la fin, quand j'ai vu le jeu, j'ai fait, ah ouais, quand même. Et du coup, voilà. Et bon, Stéphane est venu. On avait aussi Léo Henry, Jacques Mouchieli et d'autres éléments. On avait une équipe qui était super chouette. Et on a travaillé 8 mois à une bible comme ça de 1000 pages à 4, où on l'a vraiment déployé comme ça. Donc j'ai envie de dire, bon, ok, je partais d'un concept philosophique, on était vraiment dans mes champs habituels, c'est-à-dire Deleuze et la cité de contrôle, Michel Foucault et puis les systèmes panoptiques, etc. Donc on était sur ces grands thèmes-là, et je croyais naïvement que j'allais pouvoir infuser ça dans un médium très populaire, très immersif et très interactif. En me disant, il n'y a pas de raison, le cinéma fait du blockbuster, mais le cinéma fait aussi de l'arrêt d'essai. Le jeu vidéo, il y a le jeu vidéo indépendant, effectivement, mais on peut, dans un cadre triple A, entre guillemets, on va pouvoir se faufiler et créer un jeu qui effectivement va porter un peu ce type de réflexion, de valeur. Aujourd'hui, comme dit Stéphane, je pense qu'il y a peut-être 5% ou 3% ou 2% du...
Mais il faut préciser que les 5% en question demeurent supérieurs au contenu qu'on peut trouver dans la moyenne des jeux par ailleurs. Donc voilà, c'est quand même un pari qui est quand même assez relevé pour moi.
Tout à fait. Après, si je suis très honnête et très modeste, je me dis, le but aurait été de réussir à faire un jeu qui, dans l'expérience même du jeu, te pousse à penser ou te force à penser. Voilà, c'est-à-dire que le fait de combattre, de grimper, de faire du traversal, de remixer la mémoire, te pousse à penser. Aujourd'hui, pour avoir joué au jeu maintenant, tu vois, et l'avoir joué comme un simple joueur, je me rends compte que la seule chose qui a réellement marché dans cette faculté à pousser les gens à penser, c'est les meilleurs remix, en fait. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas, je te passe la parole là-dessus, parce que je pense que c'est le... C'est là qu'on arrive à toucher un point, je trouve, philosophique, ou en tout cas de réflexion, qui est habité par le joueur. Non,
oui, parce que... Parce que lorsque le joueur fait un memory remix, donc dans le cadre du jeu, ce sont des phases de gameplay durant lesquelles le joueur va rentrer dans la mémoire de ses cibles, va modifier un souvenir clé qui a constitué sa personnalité, un trauma en général, et va modifier le souvenir qu'il a de ce passé et de cet épisode pour obtenir une nouvelle configuration de l'individu, évidemment à l'avantage du joueur. Et l'idée qu'on avait très vite, puisque enfin, c'était l'idée force d'Alain, c'était que c'était intrusif et que c'était dangereux. Or nous, on ne dit jamais que l'héroïne est une criminelle. On ne dit jamais au joueur qu'il joue potentiellement une ordure, ou en tout cas quelqu'un qui se permet de fouiller dans la tête des gens pour le modifier. On le met en situation de le faire. Et au fur et à mesure, on va de plus en plus loin. Alors, je ne vais pas tout spoiler, mais puis il y a déjà quelques vidéos qui ont traîné sur le net. Donc voilà, il y a le deuxième memory remix consiste à faire croire à quelqu'un qu'il a tué sa femme. En réalité, il ne l'a pas tué pour le pousser au suicide.
Mais Mathieu, il y avait, juste pour rebondir Stéphane, dans ton livre, tu parles du viol de l'Indienne dans Costa's Revenge, c'est-à-dire du crime... contraint du joueur, et c'est intéressant justement
dans le jeu vidéo en général, oui. On ne demande pas au joueur de se poser une question sur le sens de ce qu'il est en train de faire. C'est la règle du jeu, par principe, la règle du jeu, c'est voici les règles du jeu, donc tu vas t'y soumettre et tu vas y jouer. Or, si la règle est pernicieuse, ou si ce qu'on te demande de faire peut poser un problème, ça devenait intéressant. C'était l'idée qu'avait posée Alain au départ et qu'on essayait de garder, c'est que le joueur soit de plus en plus mal à l'aise, en tout cas, qu'il se dit, mais... vraiment, c'est pas très cool ce qu'elle a fait. Les premiers retours de journalistes qu'on a vus, c'était, parce que c'était en anglais, parce que c'était d'abord la presse anglo-saxonne, c'est « she's a fucking bitch ». Et oui, c'est, effectivement, elle bousille potentiellement la mémoire des gens. Et on ne veut pas donner de leçons. Par contre, si le joueur se dit quand même « je suis un petit peu gêné aux entournures parce que je suis en train de faire », ça veut dire que là, on a forcé le joueur à faire quelque chose. C'est l'expérience de 1000 grammes, je crois. Hein. Donc on jouait un petit peu avec ça, quoi. On te mettait dans la situation de celui qui appuyait sur le bouton.
Ouais, je rebondis là sur la description que vous faites de la manière dont des concepts philosophiques peuvent passer, enfin de la difficulté aussi à faire passer des concepts philosophiques en jeu, puisque c'est de ça dont il s'agit. Pour moi, on touche à une des plus belles choses du jeu vidéo et comme forme culturelle. Je disais au départ que c'est une affaire de technologie, c'est-à-dire que c'est une expérience instrumentée, on utilise une certaine technique pour produire des états de conscience modifiés. Mais ça vaut pour à peu près toute la culture. C'est-à-dire que tous les phénomènes de culture sont une affaire de technique. Simplement, on l'a oublié. Le livre, c'est un objet technique. Le théâtre, c'est un dispositif technique. Le cinéma, c'est évidemment une technique, etc. Donc on produit des états différents à chaque fois en détournant des techniques différentes. Simplement, dans le cas des jeux vidéo, à mon sens, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans cette forme culturelle-là. C'est le fait que la technique qu'elle emploie pour produire des expériences culturelles, c'est en même temps le dispositif le plus important du monde contemporain, c'est-à-dire l'ordinateur, et c'est un dispositif politique, c'est un dispositif de pouvoir, c'est un dispositif de contrôle, c'est un dispositif de mise en, ce que j'appelle la mise en nombre du monde, qui est un vieux processus, qui remonte à la statistique, la constitution des bases de données, etc. Donc cette dimension politique de l'informatique, on peut l'interroger dans les jeux vidéo. Et je crois que les jeux vidéo sont la seule forme culturelle comme ça qui permettent, par les expériences de jeu, de l'intérieur, de questionner nos investissements de désir, de plaisir dans ces machines numériques-là. Voilà. Là, il y a quelque chose que seuls les jeux vidéo peuvent faire. Vous pouvez faire un film sur la question des big data, sur la question de l'usage des données Google par la NSA, etc. Vous pouvez faire un film, vous pouvez faire un livre, vous pouvez écrire des papiers, etc. Dans un jeu, il y a un autre potentiel qui s'ouvre. Parce que ces éléments-là, qui sont des éléments de la technique, vous pouvez les faire jouer. Et avec des moments qui vont être des moments où on peut basculer. Dans des moments où on adhère au dispositif et finalement on est joué par le dispositif. Mais ce qui est très beau dans certaines expériences de jeu, c'est quand ça devient disruptif, comme on dit. C'est-à-dire que mon rapport à la machine comme ça est brisé. Et j'ai ces moments qui sont des moments philosophiques en jeu où je m'arrête et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici? Qu'est-ce que le jeu faisait de moi ou qu'est-ce que la machine faisait de moi à ce moment-là? Quelle autre forme culturelle peut produire ça?
Très peu.
Juste une petite chose, j'aimerais que vous répondiez, parce que c'est très impressionnant et très important, mais aussi en tant que vous y ajoutiez vos dimensions tous deux de romanciers, c'est-à-dire des gens qui proposent une linéarité, une certaine manière unidirectionnelle. On pouvait avoir des réactions sur vos romans, mais ce qui est passionnant avec vous deux, c'est que vous avez différents modes de narration, le jeu, le roman, etc. Pourquoi être encore romancier si il peut y avoir des narrations participatives que vous connaissez l'un et l'autre?
J'y vais. Ouais. Alors, je vais répondre. Donc, pour mon cas personnel, je considère que je fais un travail quand je suis romancier, quand je suis écrivain. Je vais me permettre de considérer que je fais un travail à dimension artistique. C'est mon œuvre, mes idées, ma mise en scène, mon univers, mon ego, mon rapport à mon travail, à ma postérité, whatever. Quand je fais un jeu vidéo, je fais un travail d'artisan. Je ne suis plus un artiste dans la mesure où je ne suis pas décisionnaire du contenu final du projet. C'est un travail participatif. Là, en l'occurrence, on est monté en pointe à 110 ou 120 personnes sur le projet. Autant te dire que les tâches sont extrêmement morcelées et que même si le scénariste, sur un projet qui a un fort contenu narratif, garde évidemment un peu le contrôle sur un certain nombre de données, il peut encore intervenir en disant « non, là tu trahis l'histoire » ou « là tu te trompes », etc. et demander des modifications sur certaines choses. En réalité, il n'est qu'un rouage de la machine. Et donc, mon boulot consiste à permettre la narration la plus satisfaisante possible au regard de la somme des contraintes qui me sont imposées sur une prod pendant 3 ou 4 ans, puisque la particularité du scénariste de jeux vidéo, c'est qu'il ne travaille pas en amont comme sur une BD ou comme sur un long métrage. Non, il travaille, le scénario, il va le travailler et il va le peaufiner et il va le corriger, il va l'améliorer, parfois il va essayer de le sauver, tout au long de la prod, parce que le jeu se fait et l'histoire se fait en même temps que les outils parfois sont développés. Les outils au début de la prod et à la fin ont évolué. Des pans entiers qu'on pensait pouvoir afficher dans le jeu, finalement ce ne sera pas possible, donc il va falloir revoir ça. Donc le boulot du scénariste consiste à garder l'ensemble de l'histoire cohérente, alors que visiblement il a plein d'ennemis qui essayent de lui enlever tous les morceaux et continuer à raconter une histoire avec ça. on essaye. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est un boulot d'artisan. C'est un savoir-faire, voilà. C'est une expérience et c'est la capacité à maintenir le cap initial. Donc quand Alain m'avait passé le flambeau, mon boulot consistait à dire, ok, on voulait raconter ça d'abord, quoi qu'il arrive, quels que soient les moyens dont on dispose, à la fin du projet, on doit continuer à avoir raconté ça. Mais effectivement, il y a énormément de déperditions, quoi. Donc, le jeu vidéo, c'est une industrie, c'est pas un objet d'art, mais c'est une industrie qui est faite par de grands artistes, en fait. Voilà. Mais c'est un produit industriel. Donc il y a oublié des lois de marketing, de commandes, etc. Quoi. Et le travail artistique n'est qu'un volet de cette expression.
Ouais, moi pour te... Non, ça y est. Pour essayer de répondre, moi j'essaie de voir plutôt essayer de comprendre la puissance de chaque médium. Si j'investis un médium comme le jeu vidéo, j'essaie de comprendre en quoi je vais pouvoir porter par ce médium des choses fortes. Et si j'analyse ce que j'essaie de faire sur ce jeu... Pour moi, je me suis trompé, vraiment, personnellement et dans mon petit carré personnel, au sens où j'essayais de porter des concepts philosophiques ou en tout cas une vision anthropotechnique futuriste de ce qui peut se passer, mais en utilisant des modes narratifs qui ne sont pas adéquats. C'est-à-dire que C'était très beau, la Bible narrative de 1000 pages qu'on a produit. C'était très beau, le premier scénario qu'on a fait, qui était franchement, je pense, un scénario de long métrage de 4 heures ou 5 heures. Mais c'était absolument inassimilable par le médium du jeu vidéo. Donc j'étais à côté de la plaque. J'étais immodeste et à côté de la plaque. Et je ne comprenais même pas que j'étais à côté de la plaque. Il a fallu que Stéphane, au bout d'un moment, heureusement qu'il était là, reprenne ça en main et l'adapte au médium. Et après coup, je me dis, c'était quoi ton ambition ? C'était de pousser les gens à travers un médium populaire à réfléchir, d'amener un peu de réflexion, un peu de pensée dans un médium populaire. Mais la façon dont je m'y suis pris au départ, ou dont j'ai cru pouvoir m'y prendre, était mauvaise, au sens où la narration scénaristique, même la narration environnementale, c'est-à-dire de fait de pouvoir narrer des choses à travers l'environnement dans le jeu, à travers les décors, à travers les tags sur les murs, à travers un peu les déplacements des personnages dans le joueur, etc., à travers la musique. Bon, tu apportes des choses, tu construis des choses, tu crées une immersion, mais ce n'est pas une vraie narration intellectuelle, en tout cas, ce n'est pas une narration qui suscite de la pensée.
Et puis, bon. le joueur joue. D'abord, il est actif.
Il
pense d'abord à éviter ce putain d'ennemi qui l'attaque et appuyer sur le bouton au bon moment. Donc, l'histoire, ce sera quand il aura le temps. Quoi. Voilà. Donc, il faut aussi ne pas oublier que une grande partie de l'attention du joueur est déjà, il est déjà en train de jouer. Il n'est pas spectateur. Donc, on est obligé de le prendre un peu par la main et de lui amener les éléments de narration en n'oubliant pas ce côté. Il y a déjà une grande partie de son cerveau qui est occupée, en fait.
J'ai une toute petite question qui peut paraître bête, mais... en tant que romancier, justement en tant qu'agent dans l'espace du jeu vidéo, par exemple, le fait qu'un jeu soit totalement immersif d'entrée, qu'il n'y a pas 600 pages d'explication de comment on en est arrivé là, ça, en tant qu'écrivain, il y a une gymnastique intellectuelle où tu fais ta distinction artiste-artisan ?
En fait, alors, c'est de plus en plus facile parce que avec maintenant que le jeu vidéo est devenu... Alors, c'est pas encore... C'est le médium le plus populaire, c'est celui qui il a dépassé le cinéma en termes de budget depuis plusieurs années maintenant. Comme je dis souvent, la meilleure preuve pour ça, c'est qu'il y a des 4x3 dans le métro tout au long de l'année et non plus seulement à Noël. Voilà. Maintenant, le jeu vidéo fait partie du domaine culturel mondial. Et donc, il y a des nouveaux enjeux qui sont entrés, donc des enjeux économiques. On fait des jeux de plus en plus beaux parce que les machines évoluent. Et donc maintenant, on a la chance... d'avoir le droit, la possibilité d'amorcer et d'hameçonner le joueur potentiel par les cinématiques. Les cinématiques, ce sont ces séquences non jouables, très très belles, et souvent, un jeu classique commence par une cinématique qui peut parfois faire 5, 10, 15 minutes. Parfois, elle est jouable, comme dans The Last of Us, qui est la scène d'introduction à l'univers et aux enjeux. C'est une très très longue, très belle scène, très bien mise en scène. D'un quart d'heure environ. Donc voilà, on va se servir de cette formule, cette grammaire du médium qui nous autorise à raconter d'abord l'histoire en prenant le joueur par la main. Voilà le monde que je vais te mettre en scène. Dans le cadre Remember Me, on a décidé, c'était logique de commencer le jeu par une publicité. C'est une publicité pour le produit phare de Memorize, la fameuse société qui a imposé le partage numérique. Et c'est des gens qui, face caméra, traitaient cette manière très doucereuse, très Apple, très New Age. La technologie, c'est génial, vous allez voir, c'est tout super. En fait, on commence par ça, c'est une publicité. Et le joueur, il va commencer à se dire, ça a l'air super bien. Les gens, ils parlent de leur mémoire, du fait qu'ils peuvent exprimer leurs émotions, etc. Et immédiatement derrière, on voit l'héroïne qui se fait vider la tête comme un siphon. Et on voit et là on vient de raconter, voici ce monde, voici l'apparence et voici ce qui se passe derrière. Maintenant tu vas essayer de comprendre les rouages. Donc on a la chance, dans la grammaire du jeu vidéo, d'avoir ces espaces de narration cinématique qui nous permettent de les prendre vraiment comme des introductions. Et au cinéma c'est la même chose, hein. Normalement au cinéma on essaye d'amener et de poser les enjeux dès le départ pour que le spectateur saisisse de quoi on va lui parler, quoi. Dans le roman on peut plus délayer, on peut être plus mystérieux.
Rebondir un peu sur cette question. Ah, ça, il faut attendre que ça s'ouvre. J'aimerais rebondir un peu sur cette question du rapport entre narration et jeu dans les jeux vidéo, parce que effectivement, d'abord c'est une question archi classique des études sur les jeux vidéo, et ça a été une grande bagarre pendant longtemps de savoir par où est-ce qu'on les regardait. Est-ce qu'il fallait les regarder par les instruments du récit, c'était l'option des narratologues, ou par le côté du jeu, du côté des ludologues comme ils s'appelaient eux-mêmes. Mon sentiment, c'est que l'opposition entre, d'un côté, du récit qui serait linéaire dans le roman, et puis les problèmes qui sont liés à l'interaction, où l'interactivité devient un problème pour faire passer des récits. Cette opposition, elle est peut-être trop forte. C'est-à-dire que il y a des formes de récits dans lesquelles, traditionnelles, dans lesquelles, finalement, la linéarité n'est pas la propriété première, ou qui sont des récits dans lesquels on va construire le sens par un parcours spatial. Et à ce moment-là, c'est une architecture spatiale qui est, qui est l'élément moteur du récit. Enfin, dans la science-fiction, souvent, on a du récit qui se déploie à travers un parcours dans l'espace. Donc on peut avoir des affinités entre certaines formes de récits, et en particulier celles sur les récits de parcours, et les formes de jeux vidéo. Voilà. Donc il n'y a peut-être pas non plus une opposition absolument franche entre linéarité d'un côté et puis récits à embranchements multiples de l'autre. Il y a des manières de faire passer du sens par des parcours dans l'espace qui sont assez typiques des jeux vidéo. Et si j'ajoute juste un dernier point là-dessus, il me semble qu'aujourd'hui, cette vieille question de comment est-ce que les jeux vidéo transmettent du sens et éventuellement des messages, elle est en pleine explosion. C'est-à-dire qu'on voit des modes de narration nouveaux apparaître. La cinématique, ça a été effectivement une grande invention, disons, des années 90, au moment où on a la 3D, au moment où on a le CD-ROM dans lesquels on peut mettre ces fameuses cinématiques, effectivement. C'est une invention qui est problématique parce qu'on arrive à transmettre qu'à partir du moment où on suspend l'actionnabilité. C'est-à-dire qu'on retire aux joueurs la possibilité de jouer et on ne transmet plus à travers le jeu et les actes de jeu. Donc c'est une solution qui marche dans certains cas, mais qui peut aussi avoir un côté assez pénible en tant que joueur de l'autre.
C'est pour ça que depuis une dizaine d'années maintenant est apparu un nouveau terme un peu barbare. Donc on appelle ça des IGE, In-Game Event. Un IGE, c'est un événement narratif, mais qui se déroulera dans la scène ou dans le décor, que le joueur y prête attention ou pas. On ne va pas couper l'action, il a le droit de passer devant et de ne pas s'arrêter. Mais a priori, si la mise en scène et si le level design a bien été fait, il devrait quand même passer devant au bon moment et s'arrêter parce qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Et là, on lui donne des informations. BioShock, je crois, fait ça. Où en fait, tous les événements narratifs sont de ce type-là. Voilà.
Qui invente ça sur les Half-Life avec des effets de lumière qui vont comme ça piloter le regard du joueur de l'intérieur des actes de jeu et amener
donc
des
eux ils amènent une nouvelle narration qui est vraiment dédiée à ce médium, qui est que voici les événements narratifs majeurs, tu pourras t'arrêter ou pas, et le travail du scénariste va consister à ce qu'on comprenne bien sûr quand même l'histoire et les enjeux, même si on en a attrapé que 50%, 30%, peut-être même aucun. Ce n'est pas grave, ça veut dire que le joueur là ne cherche pas à ce qu'on lui raconte une histoire, mais il veut jouer, il s'en fout des enjeux, il veut juste tuer par exemple. C'est souvent ça dans un jeu.
Ça dépend aussi des formes de jeu. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître ces dernières années, je pense à des séries comme Walking Dead ou The Wolf Among Us actuellement, ou ce que fait David Cage. On a vu apparaître des jeux dans lesquels le rapport à l'histoire est profondément transformé, et on a d'autres modes pour faire passer la narration. Alors c'est vrai que dans les jeux, si on part sur un gameplay qui est un gameplay de jeu d'action, à ce moment-là, effectivement, l'interactivité devient vraiment un problème. C'est-à-dire qu'elle fait obstacle, sans doute, à la transmission du message, sauf à la suspendre temporairement.
Oui, non. Là-dessus, moi, j'essaie de plonger ce que vous dites tous les deux là-dessus, parce que ça me parle énormément. C'est-à-dire de dire, bon, par exemple, on est dans action-aventure, d'accord ? On a dit, OK, on part avec une idée, on essaie de faire passer un message philosophique. On dit, bon, OK, on a la narration par cinématique, mais qui vient du cinéma, qui est complètement apportée du cinéma, d'où le fait qu'on sent bien que c'est pas la puissance du médium, tu vois, c'est la puissance du médium cinéma importée dans le jeu vidéo. Et puis on a la narration environnementale, mais j'ai envie de dire la narration environnementale, elle appartient à tous les médiums. Et moi, ce qui m'a frappé dans Remember Me en y jouant, c'est qu'effectivement, ce qu'a raconté très très bien Stéphane, c'est le moment qui fonctionne comme créateur de pensée, la disruption, comme tu dis, qui fonctionne comme créatrice de pensée, c'est le moment où il y a la contre-identification. C'est-à-dire que c'est un média hyper immersif qui fait que comme tu joues un personnage qui agit en fonction de tes gestes de manette sur l'écran, ton immersion elle est maximisée. Tu vois le personnage agir à partir de... Donc tu as une identification extrêmement forte. Et au moment où tu arrives à créer la contre-identification, où tu te recules et tu dis « mais attends, ce que je fais c'est dégueulasse, je suis un manipulateur, je suis en train de bousiller l'identité, je pousse quelqu'un à se suicider, c'est ignoble ce que je fais. » Là se crée la disruption. Et là, j'ai l'impression que dans cette fissure-là peut se créer un acte de pensée. Voilà. Et quand vous parliez aussi du fait que c'est de l'interaction, c'est du jeu en permanence. Moi, ça fait penser justement à l'analyse de Deleuze sur l'image mouvement et l'image temps. Tu vois, quand il dit, on prend les blockbusters américains, on est sur l'image action perpétuelle, c'est-à-dire qu'on est sur des chaînes, hein, stimule-réaction, on stimule et on réagit. Et vous regardez le film, vous passez 2 heures, vous sortez, il n'y a pas un gramme de pensée qui s'est généré dans votre tête, vous avez simplement été enquillé dans cette chaîne stimule-réaction. Et le jeu vidéo fonctionne pareil. Et quand quelque chose tout d'un coup jaillit et se passe, c'est qu'on arrive à générer une image temps. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'arrive plus à faire quelque chose, on est bloqué, on s'arrête. Dans les jeux d'exploration, c'est parfois le cas. Et tout d'un coup, on sent quelque chose descendre vers nous et quelque chose s'ouvre. Et s'ouvre dans un univers pourtant complètement contraint, virtuel, etc. Et ça, c'est intéressant. La capacité que peut avoir un jeu à générer voilà, une image temps ou un moment comme ça, une de temporalité dilatée, et ben, le trouver dans le gameplay, c'est pas évident. Voilà, c'est, et moi, je me reproche par rapport à Human Bummy de ne pas avoir réfléchi plus à ça, de me dire comment je vais générer de la pensée à partir du gameplay lui-même, à partir de phénomènes comme ça contre-identificatoires ou contre-immersifs, ou interrogeant le médium à l'intérieur même de l'univers virtuel. Et voilà, et on l'a réussi sur ce que tu as dit, et très bien, mais on n'a peut-être pas assez réfléchi à les...
Il y a même des réflexions qui sont faites, carrément, là, même plus au niveau de ce qu'on montre à l'écran, mais sur simplement la gestion de ces gestes. C'est-à-dire que le game designer va aussi réfléchir en termes de « je veux que tous ces gestes de défense ils se servent de sa main gauche et tous ces gestes d'attaque se servent de sa main droite ». Que le joueur commence instinctivement, même sans rendre compte qu'il y a un début de rapport à son corps qui va se mettre en place. Donc ça fait partie effectivement de ce genre de rapports et de stimuli qui finissent par raconter quelque chose avec un rapport instinctif à des éléments qui ont été posés, qui sont secrets, qui sont invisibles pour le joueur.
Ça m'intéresse énormément ce que vous racontez là en ce moment. C'est le cœur de mon travail actuel, parce que je suis quelqu'un qui a travaillé sur les jeux vidéo en disant sur les strates basses de l'expérience, c'est-à-dire en laissant la question des représentations, la question des fictions, et en me disant il y a quelque chose qu'on n'interroge pas d'habitude et où il y a des émotions. Il y a des émotions spécifiques, qui est ce que j'appelle cette danse avec les contrôleurs. C'est-à-dire que les jeux vidéo, certains jeux vidéo sont une affaire comme ça de rythme, et il se passe quelque chose là dans ces... Qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo ? Un dispositif qui exige de vous, qui fait des requêtes de mouvement, et ces requêtes de mouvement, on les module. Voilà, on y répond plus ou moins bien, on est capable de temporiser, ou au contraire de rentrer dans le flux et de rentrer dans le rythme. Et si on regarde ça de ce côté-là, du côté de la danse avec les contrôleurs, on peut comprendre ce que les jeux vidéo sont capables de faire. C'est-à-dire que bien souvent, ce n'est pas des émotions de haut rang que la psychologie va décrire, ce n'est pas la nostalgie, ce n'est pas simplement la joie. C'est des émotions de l'ordre de la petite danse,
la peur, la frustration, la récompense, carotte, bâton.
Je crois qu'il y a aussi des choses plus belles. C'est-à-dire, il y a aussi des choses planquées.
ICO. Ouais. Enfin, on sort tout le temps ICO. Dès qu'on va aborder ce sujet, on va dégainer ICO parce que voilà.
Alors, je dégaine pas ICO.
Je dégaine ICO.
Ouais,
c'est le jeu après lequel tout le monde court depuis 15 ans en se disant on veut faire comme ICO. On veut que le joueur se sente dans cette situation de protection d'une entité qui n'existe pas, qui se sent dans cette relation.
On est encore dans des strates qui sont des strates d'identification psychologique et de rapport au personnage. Je crois qu'il y a une strate plus basse encore et à travailler et où il y a des émotions spécifiques de disposition. Donc, je prends un autre exemple. Mon ICO sera Asteroids, très vieux jeu en vectoriel d'Atari sur borne d'arcade, dans lequel vous avez un petit vaisseau qui fragmente un espèce de labyrinthe mobile d'astéroïdes. À chaque fois que vous tirez, elle se fragmente en morceaux plus petits, donc ça devient de plus en plus difficile et il faut se faufiler. Bon. Dans ce jeu, ce qui m'a toujours frappé, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une émotion spécifique parce que tout ce qui est à l'écran dépend de mon propre corps et dépend de mes propres mouvements. C'est-à-dire que le labyrinthe, il est mobile, mais c'est le mien. C'est tous mes gestes qui l'ont engendré. Donc mon corps est déporté dans l'ensemble du labyrinthe, pas simplement dans le petit avatar. Il y a un sentiment comme ça d'avoir un rapport à un espace comme ça, vivant, mobile, modulé, qui est tellement, tellement particulier. Et là, il y a une forme de beauté dans ce rapport à ce petit micro-monde. Comment est-ce qu'on peut la décrire autrement ? C'est pas de la beauté fictionnelle, c'est pas de la beauté dans le rapport au personnage, c'est pas de la beauté dans le rapport narratif, c'est de la beauté de jeu vidéo. Et là, il y a des choses à travailler. Et c'est là qu'il y a des émotions spécifiques, disruptives aussi, qui peuvent se placer, je crois.
Alors, absolument. Et par ailleurs, il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est que le jeu vidéo, par définition, par nature même, est punitif. Il y a un comique américain qui a fait un sketch délicieux là-dessus qui dit il y a aucune autre forme médiatique qui exige de son consommateur de prouver qu'il est au niveau. Un livre ne te demande pas de remplir une fiche de résume-moi le dernier chapitre. T'as 5 minutes. Si t'as pas réussi, tu passes pas au chapitre suivant. Le jeu vidéo fait ça tout le temps. Si t'es pas assez bon, tu verras pas la suite. Et il y a quand même, enfin, il y a, on rejoindrait Deleuze et Foucault. Il y a un rapport masochiste de la part du joueur, en fait, qui est disciplinaire, à la fois. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de garçons qui jouaient au début. C'est, tu dois tout le temps prouver que tu peux battre la machine et battre le jeu. Le jeu est un adversaire, quoi. Il faut le tuer, il faut le vaincre. Donc, là, on joue encore sur des relations très primales, quoi, de victoire face à un système qui est conçu. Il y avait même des jeux dans les années 80. Les algorithmes étaient tellement simples. À chaque fois que tu réussissais, il augmentait la capacité de réaction de l'adversaire, donc de l'IA, par deux. Au bout d'un moment, il va plus vite que ton cerveau. Donc c'est pas la peine, tu peux pas le battre, quoi. Voilà. Donc là, le jeu consistait à dire, moi j'ai atteint 450, et toi 200, hein, pauvre guignol. Voilà. Donc toujours être meilleur que l'autre.
Il y a un côté positif aussi dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on met à l'épreuve constamment le joueur, mais il y a aussi un apprentissage. Et ça, moi, c'est les premières choses que j'ai découvert en travaillant sur ce jeu, c'est la fameuse course d'apprentissage du gameplay. Et ça, c'est quand même propre vraiment à ce médium, c'est qu'on apprend aux joueurs à progresser à partir de choses très simples, et c'est très subtilement fait. Quand le jeu est bon, c'est très subtilement fait. Et à la fin, on acquiert vraiment des compétences qui sont fortes. Et le plaisir d'acquérir ces compétences est fondamental dans le plaisir du jeu. Et du coup, oui, c'est des sanctions, et on est sur des modes très punitifs, mais en même temps, on est sur des modes de construction de compétences. Donc ça, effectivement, il n'y a pas d'autre médium qui, quand vous lisez un livre, bon, vous avez, normalement, vous mémorisez, et à la fin, c'est un peu plus intelligent, un peu plus profond, mais ce n'est pas construit nécessairement comme une courbe d'apprentissage. Là, c'est clairement une sorte de tutoriel, en tout cas de compétences. Souvent, les compétences sont débiles, enfin, c'est, je vais tuer plus précisément et à plus longue distance, mais voilà, quoi,
Il y a une chose qui m'intéresse dans tout ce que vous dites, c'est qu'il y a une sorte de débordement du jeu dans l'émotion, dans l'aspect volontaire du joueur, quand est-ce qu'il est volontaire ou pas, quand est-ce qu'il devient involontaire. Et, par exemple, dans un jeu, il y a deux fins, il y a la fin de partie, il y a l'arrêt, qui elle dépend du joueur. Et, j'ai été très intéressé en préparant cette table ronde par une expérience qui a été faite par le groupe Rock Nine Inch Nails qui voulait développer une dystopie sur jeu, et ils ont fait appel à Jacob Weissman qui a conçu une campagne de pub intrusive, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas aller sur les sites ou le jeu, mais elle venait à vous. Par exemple, lors d'un concert du groupe, un des agents de Weissman avait laissé une clé USB dans les toilettes, de manière à ce qu'elle soit reproduite sur YouTube et qu'il y ait une clé. Il y a un truc formidable qui était les t-shirts à malfaçon du groupe, donc il y avait les dates des concerts du groupe, et il y avait un défaut de caractère, et bien sûr il y a un geek qui a relevé les lettres à défaut, qui a rentré le mot, qui a accédé à un site. Et la question, comme c'est philosophie et jeu, est-ce que quelle est la part de ludique d'intrusion maintenant dans un jeu qui fait que vous êtes récupéré dans les chiottes d'un groupe de rock ou chez vous à l'heure du repas on vous envoie un SMS parce que l'agent de Weissman a décidé de vous relancer?
En fait, ça va se développer de plus en plus. On voit déjà que là, les grosses sociétés. Alors là, c'est même plus les boîtes de jeux. En fait, c'est les boîtes propriétaires, genre Microsoft, par exemple, qui ont eux des intérêts stratégiques industriels à ce que leur prochain gadget de lunettes de réalité augmentée ou le téléphone mobile, etc. Là, ils essayent de s'implanter sur le marché du téléphone mobile. Donc, ils vont peut-être passer commande des gens qui vont travailler avec eux pour qu'on signe chez vous. Il faut absolument qu'il y ait une utilisation du téléphone mobile en supplément ou en participation de la grammaire ludique ou du plaisir de jeu. Ça, c'est presque la version, je dirais, bénigne marketing pas trop méchante. Derrière, il y a le scandale qu'il y a eu récemment avec la Xbox One, donc la prochaine génération de consoles. Je sais pas, je pense qu'il y a plusieurs, peut-être même une majorité d'entre vous qui ont entendu parler de cette histoire, mais au cas où, j'aime bien la rappeler. Et pour la Xbox One, Microsoft s'est dit qu'ils allaient permettre à la caméra, à Kinect, au système de la caméra qui est intégrée dans la console, d'être en permanence allumée, impossible de l'éteindre, et associé et couplé à des licences qu'ils ont déposées, des systèmes du genre, vous louez un film pour regarder un film sur votre télé, mais Kinect détecte qu'il y a trois personnes devant le canapé, or vous avez loué le film pour une personne, le film ne se lancera pas. Voilà. Et ça, Microsoft a cru qu'ils pouvaient mettre sur leur marché une console qui aurait ce genre de contenu. Alors, comment ils ont pu se dire, parce que c'est quand même passé par des bureaux d'études, par du marketing, que cette chose qui était le cauchemar la société de contrôle rentrait dans ton salon, voilà, même pas par la caméra politique, mais par la console de jeux vidéo. Comment ils ont pu espérer que ça pourrait passer? Ça a hurlé au point qu'ils ont dû, en plusieurs temps, oui, mais vous verrez, il y aura une diode qui sera allumée quand la caméra fonctionne. Super. Deux, promis, on l'enlève. Voilà. Et le patron de Microsoft Jeux a été viré. Enfin, voilà, ça a été un énorme scandale. Donc, le rapport à la technologie intrusive, elle se pose, mais même pas seulement pour ludique. Elle se pose pour du data mining et pour des utilisations beaucoup plus pernicieuses. Je pense que, pour moi, c'était un coup d'essai. Et s'ils n'étaient pas passés ce coup-ci, pourquoi ça a crispé? On attendra la prochaine génération et on retentera le coup, quoi. Ouais.
Et puis on a aussi, en termes comme ça, enfin, de manière basique depuis longtemps, l'enregistrement systématique de l'ensemble des activités des joueurs in-game qui sont utilisées, donc en jeu, qui sont utilisées soit pour améliorer, enfin pour résoudre des problèmes d'ergonomie ou les détecter, mais enfin on ne sait pas ce qui est fait de l'ensemble de ces données. Donc quand on joue, l'ensemble des données sont captées et sont captives, c'est-à-dire qu'on n'y a pas accès, on n'a pas droit de rectification, enfin rien. Donc le contrat qu'on signe la plupart du temps est quand même extrêmement abusif. Après, il me semble, pour revenir sur la question par exemple du mobile et des possibilités de géolocalisation, il y a aussi des possibilités de jeu. Et c'est des choses qui peuvent fabriquer du ludique. Enfin, je pense aux expériences transmédia, à ce que tente Eric Viennot en France, où il y a une manière de jouer, cette fois-ci, avec l'espace réel, avec les données géolocalisées. Et peut-être que ce sont des choses aussi qui doivent être investies du bon côté, du côté ludique.
Oui, c'est, pour l'instant, pour moi, c'est que le début. Il y a eu les années console de salon ou ordinateur. Là, on voit bien que maintenant, tout le monde a un téléphone dans sa poche, ou presque. Je crois que l'objet a atteint un taux de pénétration de la société de 98 ou 99%. Enfin, tout le monde a un téléphone portable. Donc, évidemment, ils se disent, maintenant, la prochaine étape, ça va être de leur rappeler qu'il faut revenir jouer. Et revenir jouer égale revenir consommer, bien entendu. Payer.
Vous avez une vision extrêmement dystopique, non?
Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Hein, voilà. Ce qui est étonnant, c'est que effectivement, quand on est dans l'industrie, ce sont des informations, ce sont des réflexions qui vont nous amener par le marketing, par exemple, avec une dimension uniquement financière. Capter une audience, parce que c'est ça leur objectif, capter une audience, lui donner envie de revenir jouer le plus souvent possible, d'acheter du contenu, etc. Et il n'y a pas un moment où on va se dire mais enfin, est-ce que tu t'en compte du modèle que tu es en train de créer? On est une industrie, mon bonhomme. Donc effectivement, on n'est pas là pour l'entertainment. C'est la partie la visible, en fait. Mais derrière, l'objectif, c'est de gagner de l'argent, quoi. Donc, si on peut leur rappeler que par un SMS qu'il faut qu'ils reviennent jouer, ils le font déjà. Tous les jeux mobiles, ils le font régulièrement. Dès que vous passez en mode Wi-Fi, aussitôt, vous allez avoir une rafale de rappels. Tu n'es pas venu jouer aujourd'hui, quoi. Donc, c'est déjà là. C'est la réalité.
Mais en même temps, est-ce que...
Mais c'est bénin.
Cette mainmise du marketing, effectivement, sur la production culturelle, je veux dire, c'est pas spécifique aux jeux vidéo.
Non, absolument pas.
La manière radicale de détruire la créativité, on la connaît au cinéma, ça s'appelle le blockbuster, et chaque élément est pensé non seulement pour le plaisir visuel qu'il va produire, mais pour sa rentabilité en termes financiers, quasiment, hein, puisque c'est des films très chers, donc il faut les rentabiliser très vite. Donc le spectaculaire est une des solutions formelles comme ça pour rentabiliser très vite le film. Donc il y a une intrication entre la forme du film et la manière dont il est financiarisé. Bon, ça, c'est,
oui, parce que comme disait Alain, c'est très juste, il n'y a jamais eu autant de créativité en jeu vidéo, parce qu'à côté de ça, il y a aussi tout le... Là, on parle des gros blockbusters.
Ça,
on est aussi dans la logique,
vidéo,
on est presque dans une logique, on parle du jeu vidéo hollywoodien, si on pouvait faire un parallèle. On parle des gros studios qui produisent des gros jeux qui coûtent très cher et qui doivent en vendre des kilotonnes. Mais à côté de ça, c'est aussi développé, parce que les outils se sont démocratisés, un jeu vidéo indépendant, qui réfléchit, qui pose des questions sur la nature même du jeu, ce que c'est que jouer. Alors ça peut donner des choses parfois un peu absurdes, comme One Life. C'est un jeu auquel on ne peut jouer qu'une fois. Si on meurt, on ne peut plus jamais lancer le jeu. Où il y a Héritage, c'est un jeu qui dure un siècle. La partie s'arrête au bout d'un siècle. Donc a priori, sauf miracle médical, si tu veux voir la fin du jeu, ce sera des enfants qui y joueront, quoi. Si tant est que le support existe encore. Mais voilà, donc on s'intéresse même à la notion de ce que c'est qu'une sauvegarde de jeu. Et ben, il dit, voilà, ton jeu, il va durer un siècle. Donc, si tu veux réfléchir à ton rapport. Mais, après tout, en musique aussi, il y a eu ça. Il y a des gens qui ont écrit des partitions avec, ici, c'est Bartok qui a fait ça, je crois. Ici, un silence de 3 ans. Ouais. Donc, l'œuvre est supposée de jouer sur 17 ans. Donc, on peut toujours s'amuser à essayer de casser les codes, quoi. Mais ça, c'est possible. Et ces gens-là commencent à avoir accès à une reconnaissance grâce à Steam, entre autres, qui est une plateforme de téléchargement mondialisée maintenant et qui laisse la place aux indépendants.
0,9% de la population mondiale ont-ils annoncé hier ou avant-hier sur Steam.
C'est effarant, quoi. Et donc là, ces gens-là, ils vont avoir maintenant la possibilité de produire des jeux qui sont sortis de la notion commerciale et qui vont amener des questionnements et peut-être des questionnements plus radicaux. Et généralement, c'est l'outsider qui pose des questions.
Vous n'êtes pas tenté de passer de l'autre côté de la barrière, du côté de la production indépendante ? Oui, pareil, il y a un effet d'Eldorado. Enfin, d'abord, on vit un âge d'or de la production.
Moi, je sais que si je refais un jeu, moi, je l'ai dit plusieurs fois, mais ça sera en jeu indépendant, ça sera sur des petites équipes. 10, 12 personnes pour avoir déjà plus de maîtrise sur ce qui se fait et puis surtout parce que voilà, c'est là qu'on peut tenter, quoi. Donc c'est le jeu d'arrêt d'essai, il est là, quoi. Donc moi, en tout cas, c'est vers là que j'irai si je refais du jeu vidéo, quoi.
Bah, en fait, moi, je l'ai déjà fait et en général, c'est très bête, mais il n'y a pas vraiment de place pour un scénariste sur ce genre de projet. En réalité, ce sont des équipes tellement réduites que donc là, on est dans une dimension économique. Le programmeur, il est aussi le graphiste et il sert le café, et le graphiste, il est aussi game designer, et ils inventent leur histoire ensemble. Généralement, sur ce genre de projet, on n'est pas dans un truc très très segmenté avec des répartitions des rôles très précises, comme, par exemple, ça m'est arrivé, le scénariste ne fait qu'écrire l'histoire, mais il y aura ensuite un dialoguiste qui va s'occuper des scènes, etc., et un réal qui va prendre en charge la mise en scène des cinématiques. Donc là, on est dans de l'industrie lourde, dans du triple A ou dans du quadruple A. Chez les indépendants, généralement, il n'y a pas, j'y aurais pas place pour faire le métier que je fais actuellement, à savoir scénariste de jeux vidéo, quoi. Qui ne fait que
ça. Tu pourrais faire des choses plus polyvalentes, peut-être,
ah,
tu vois, narrative design et tout.
Ouais,
tu vois,
Mais pour l'instant, j'ai pas eu l'opportunité. Ouais.
Oui, on pourra continuer à vous écouter pendant des heures. Des questions. J'aurais une toute petite question quand même, une dernière qui serait.
Ça n'est pas interactif. Ceci n'est pas.
Lâchez la manette.
Oui, mais bah justement sur la notion d'interactivité, j'avais deux questions. Une qui est rapide, qui est que en tant que romancier, en tant que philosophe, vous jouez sur différents modes de narration, vous avez une vie de famille, j'imagine aussi, vous devez la prendre, non, bah, très bien, donc la première question réglée. Deuxième question.
Gros guide.
Une question justement sur le fait de la notion d'imposition de produits, de narration, etc. Le jeu, c'est à la fois un produit, c'est une narration, etc. Et vous l'avez dit tout le temps qu'une sorte de participation par la façon de jouer qui est reprise, on ne sait comment, c'était très intéressant. Il y a une nostalgie en ce moment de sorte de messages linéaires qui étaient qu'on peut juger réactionnaires, qui est ce que j'appellerais l'effet Mad Men, où il y a la chaîne de décision, elle est élégante, ils sont bien sapés, ils picolent, ils clopent, etc. Mais le message est simple, on sait que ça va de haut en bas. Et pourquoi, alors qu'on est dans un mode de narration complètement différent, où le consommateur agit sur le produit, modifie les décideurs, pourquoi il y a cette nostalgie du pouvoir linéaire, du pouvoir reconnaissable, dans Mad Men, par exemple?
Ah, alors j'ai envie de dire, c'est tout simple. Alors, pour moi, nostalgie veut dire avoir suffisamment vécu pour se souvenir de c'était mieux avant. Or, la population des joueurs vieillit. Je vais faire mon militant 15 secondes. Les gens croient que la majorité des joueurs sont des ados. Non, la moyenne des joueurs en France est de 35 ans. Donc ça veut dire que les gens qui ont commencé à jouer dans les années 80 continuent à jouer et ne lâchent pas le jeu. Donc ils sont assez vieux maintenant pour se souvenir à quel point c'était mieux avant. Donc on va apparaître une plateforme qui s'appelle GOG, Good Old Games. GOG permet de jouer à des jeux des années 90. Donc c'était carrément la préhistoire. Donc oui, et comme c'était des jeux avec moins de moyens, c'était des jeux qui certainement entretenaient un rapport à la narration qui était moins sophistiqué, donc plus linéaire. Et on se souvient avec Nostalgie à quel point c'était hyper chouette. Mais c'est aussi un leurre. Enfin, c'est un espace mental qu'on se fabrique. Un de mes jeux préférés de tous les temps, c'était Tenchu, donc un jeu de ninja sur PS1. L'autre jour, j'ai eu une bouffée de nostalgie. J'ai dit, oh, je me le réinstalle. Allez, j'y vais. J'ai tenu 5 minutes, à tel point c'est graphiquement à dégueuler. Quoi. Enfin, c'est, je n'étais pas prêt à jouer un personnage qui était composé de 4 pyramides qui étaient supposées me représenter un individu. Quoi. Donc là, ouais, tout à coup, on pouvait à nouveau jouer à des jeux qui avaient 15 ans et non, c'est pas possible. Quoi. Donc la nostalgie, on s'en souvient, mais refaire l'expérience en elle-même, je suis pas certain que ça soit très 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 sympathique et très agréable. Quoi.
Et en même temps, il reste peut-être des classiques, c'est-à-dire des jeux sur la 3D et la première 3D. Effectivement, c'est difficile. Mais par exemple, ça dépend des technos, je veux dire. Après tout, moi, je peux rejouer des jeux d'aventure en mode texte de 79 ou 78 avec exactement le même plaisir. Alors, je ne les ai pas joués en 79 ou 78, mais la forme n'a pas, enfin, à la fois radicalement vieilli et en même temps, l'expérience reste similaire. Et une bonne partie des jeux en 2D qui sont la majorité des jeux représentés dans ce qu'on appelle le rétro gaming, dans le fait de jouer des jeux plus anciens, il y a une certaine 2D qui sera éternelle, je veux dire, où le plaisir de ces jeux-là est aussi fort aujourd'hui qu'il l'était hier.
J'aurais envie de dire, normalement, si le jeu est bien, c'est-à-dire si les règles du jeu étaient là et si le plaisir de jeu était vraiment fort, normalement, on doit pouvoir rejouer au jeu, ça ne serait pas un problème. C'est vrai que sur les premières générations de jeux 3D, comme Tenchu, c'était tellement encore le Far West, on essayait encore tellement de débroussailler des technologies qui s'inventaient au fur et à mesure qu'on fabriquait les jeux, que maintenant, ça a un côté vraiment expérimental qui ne tient plus la route. Quoi. Et certainement que des jeux bien mieux pensés et bien plus classiques, les jeux en 2D, les jeux à scrolling, on peut continuer à y jouer parce que les mécaniques de jeu sont extrêmement précises, extrêmement bien faites, et on ne s'attend pas à un graphisme époustouflant. C'est le plaisir, il est dans le défi. En fait.
Des questions maintenant? Oui,
scénariste, il fait tout.
Vous êtes prêts pour l'indé, là?
Bonjour. Ah, je voulais savoir s'il était possible d'envisager, ou si ça existe déjà, ou si c'est vraiment impossible, un jeu où on serait amené à faire des choix éthiques. Et suivant les choix qu'on opérait, on aurait au final des choses complètement différentes. Je pense à ça parce que j'ai entendu une interview d'un joueur de Grand Theft Auto, mais il y a très très longtemps, qui disait que sa petite sœur avait volé une mobylette au début du jeu et depuis se baladait dans la ville, et ça lui convenait tout à fait.
Bah, oui, ça existe. Hein. C'est même un genre en soi, et puis ça s'est développé beaucoup ces dernières années. Je sais pas. Enfin, tout à l'heure, tu as cité BioShock, qui était censé poser ces questions éthiques aux joueurs, mais où le grand jeu narratif là, de ces dernières années de Walking Dead est complètement centré sur ça. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'une petite fille dans un monde dévasté et en permanence on est sollicité par des choix qui sont des choix moraux. Et on est devant l'écran en se demandant là qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je décide. Ouais. Et bien sûr ça engage des valeurs. Donc c'est très à la mode.
Il y a même un créateur de jeu qui s'appelle Peter Molyneux qui a basé toute sa carrière là-dessus. Tous les jeux qu'il propose, à peu près tous, posent la question du rapport du joueur à l'univers dans lequel il évolue. Ça a commencé avec Populous, où on est un dieu et on décide d'être un dieu bon ou mauvais. On décide de punir ses fidèles ou au contraire de les amener vers le paradis. Il a fait aussi Black and White, où l'aspect graphique du jeu évoluait selon les actions bonnes ou mauvaises du joueur. Mais en fait, c'était pas très bien calibré. Donc, si on voulait que le décor devienne vraiment moche, fallait frapper les enfants. Quoi. Donc, et après, dernière anecdote là-dessus, c'est Peter Molyneux. Bon, il a quand même une éthique, ou il a pas une éthique, il a une morale. Ce qui fait que sur son jeu Fable, où on décide de jouer ou un super-héros ou un super-vilain, les deux sont possibles. Mais pour voir de quel côté de la barrière le joueur va se positionner, le jeu pose régulièrement des cas de conscience aux joueurs, et typiquement à l'anglo-saxonne. Donc pour choisir dans quel camp on va tomber, il fallait penser en américain. La première scène du jeu, vous apprenez que dans le village, le boucher trompe sa femme avec la boulangère. Si vous balancez le boucher à sa femme, vous êtes du côté du bien. Si vous le couvrez, vous marquez des points en négatif. Donc là, on est vraiment dans un rapport, non peut-être pas éthique, mais moral ou moraliste à l'américaine. Donc il fallait aussi se mettre dans la tête du mec qui a conçu le jeu pour savoir qu'est-ce qu'il voulait exactement que je fasse.
Merci beaucoup et je pense qu'on peut applaudir.